Bienvenue à cette nouvelle édition de La vie en BD. Raymond Poirier avec vous, comme l'habitude, pour la prochaine heure. Une prochaine heure dans laquelle on ira chercher différents éléments, entre autres en deuxième moitié, là, vraiment des commentaires BD, des regards sur des sorties récentes ou moins récentes. Entre autres, il y aura Stéphane Gravel qui sera de passage pour nous mettre à jour sur ses lectures, donc son mois en BD. Et en première partie, on va plonger dans le western fantastique. Donc, une série qui s'appelle Far Out, deux tomes qui avaient été publiés chez Studio Luna il y a déjà, j'ai l'impression, quelques années. Et j'étais très content de voir la série réapparaître du côté de Franfroid avec un troisième tome, donc toujours signé Olivier Carpentier, Gauthier Langevin, qui poursuit là où la série nous avait laissé. Donc, toujours ces robots et cette ambiance western, cet aspect extraterrestre, spatial. Donc, bref, un métissage un peu improbable, mais qui fonctionne et qui continue de fonctionner avec ce troisième tome-là. Alors, j'étais bien content, j'avais bien hâte d'en jaser avec les deux auteurs et ça va être le sujet dans lequel on se lance à l'instant, ou presque. Alors, 2020, on retrouve la série Far Out, troisième tome, qui vient d'arriver sur les étaux des libraires. Et pour en jaser, on a avec nous le scénariste Gauthier Langevin. Bonjour.
Salut.
Et le dessinateur Olivier Carpentier. Bonjour.
Salut.
Alors, je disais de retour, en fait, parce que premier tome, deuxième tome sont arrivés 2014-2015. Il y a eu une longue pause. J'ai l'impression qu'on revient un peu vers dans nos souliers de Far Out. Peut-être la première question, j'imagine, c'est circonstanciel, mais qu'est-ce qui explique un peu cette longue pause-là dans la série?
En gros, c'est après Far Out 2, j'ai eu un contrat pour faire une bande dessinée pour Juste pour rire avec Yves Pelletier. Donc ça l'a pris quand même une bonne année et demie. Puis quand j'ai terminé, j'ai embarqué sur le tome 3 de Far Out. Sauf que à la différence du tome 2, le tome 2, on avait fait une campagne de sociofinancement. Ça me permettait là, de travailler à temps plein. Là, ce n'était pas le cas. Là, j'ai un emploi là, 4 jours semaine en jeu vidéo. Donc, c'est pour ça que la création de l'album a été plus long. Fait que ça, plus l'autre album pour Juste pour rire, ça l'explique là, le long délai qu'il y a eu entre le tome 2 et le tome 3.
Et un long délai, des fois, quand on se retrouve un peu à replonger dans une série après un an, deux ans de pause, est-ce que ça devient difficile un peu de replonger, de retrouver le mood, l'esprit qu'on avait insufflé dans les deux premiers tomes? Ou au contraire, c'est comme renfiler des pantoufles?
C'est vraiment comme renfiler des pantoufles parce que j'avais vraiment hâte de rembarquer là-dessus. Là, c'est vraiment notre bébé. Je trouve ça plus trippant à faire que d'autres projets. Puis, tu sais, j'ai tout le temps continué d'avoir les personnages en tête, de faire des esquisses et tout. Donc, non, c'est ça. Ça s'est fait. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, il y avait quand même des conventions, des salons du livre. Donc, tu sais, on continuait de promouvoir l'album, continuait de faire des dédicaces. Donc, j'étais tout le temps en train de dessiner des robots cowboys. Fait que ça n'a pas été dur de me remettre dedans, là.
On travaillait aussi sur l'histoire depuis un bon moment quand même. On avait une avance déjà sur le tome 2, donc on a pu... Moi, j'ai commencé à travailler sur le scénario assez rapidement après que le tome 2 soit sorti. Donc, le projet avait à la base été conçu comme une histoire complète, là, un premier arc narratif complet. Donc, je pense pas que ça change trop. T'sais. C'est sûr que dans le tome 3, on en apprend énormément. On apprend beaucoup plus d'informations que dans le tome 1 et le tome 2, mais c'était voulu comme ça dès le départ pour créer une espèce de cliffhanger.
Oui, parce que j'ai l'impression, en fait, quand on arrive au tome 3, on change de protagoniste, dans le fond, essentiellement. Donc, on se retrouve à la fin du tome 2 pour se contextualiser. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, allez le lire, revenez prendre l'entrevue après ça ici et accrochez-nous pour le tome 3. Mais dans le fond, on se retrouvait avec cette humaine qui arrive, donc qui atterrit ou qui apparaît sur la planète Far Out. Et dans le troisième tome, ben là, on la suit, elle devient le personnage central et elle devient la clé un peu pour expliquer justement et contextualiser certains des grains de sable que vous aviez semés dans les deux premiers tomes.
Oui, ça devient le personnage principal qui se rapproche. On est peut-être un peu plus facile de s'identifier à ce personnage-là, étant donné que c'est un humain, c'est pas un robot. Puis, mais ça, c'est ça, on avait voulu ça dès le départ. J'espère que les gens apprécient. C'est sûr qu'on voit vraiment moins les personnages qu'on a posés dans le tome 1 puis le tome 2. On les voit à la fin, là, dans le dernier chapitre, à peu près. Mais je pense que c'est pour le mieux que ça ajoute une belle dimension.
Oui, c'est ça. Puis quand l'album se conclut, tu sais, on se ramasse un peu avec une espèce d'équipe dont tous ces personnages-là font partie. Tu sais, ils finissent ensemble, finalement. Puis on peut deviner que les prochaines aventures, ils risquent de les vivre côte à côte, là, en partie. Là.
Oui, puis ça permet, en fait, j'ai l'impression de faire évoluer le ton de la série, en fait, parce qu'on était démarré beaucoup avec l'esprit des Western Spaghetti, dans le fond, un hommage un peu à ça, et de voir, d'extrapoler avec l'idée d'une culture qui serait bâtie autour du Western Spaghetti comme élément de référent. Et là, tranquillement, dans le fond, on savait que la série avait une dimension de science-fiction, c'était dans l'a priori, mais là, avec le tome 3, on glisse vraiment vers la science-fiction. Et là, la question devient de voir un peu comment on va raccorder l'univers de Western Spaghetti à toute la mythologie qui est développée, à tout l'univers qui s'est élargi dans ce tome 3-là aussi.
Ça nous permet d'être plus critiques aussi là, par rapport au genre. Donc, elle a quand même une certaine opinion assez tranchée sur l'univers dans lequel elle arrive. Là. Elle trouve que tout ça, c'est pas mal ridicule. Puis, je trouve que ça nous permet de nous identifier à ce personnage-là plus facilement parce qu'elle a un regard critique, tout ça. Elle voit les tâches aveugles dans le récit, elle voit les choses qui ne fonctionnent pas nécessairement. Mais je trouve que c'est quand même très... Ça fait, en tout cas, je sais pas pour vous, là, mais j'ai l'impression que ça fait quand même très Western Spaghetti d'avoir ce genre de personnage qui est un peu en dehors. On est sur la ligne entre la science-fiction et le western, sans nécessairement réinventer le genre. Mais, ouais, puis... mais on va vers... Je veux pas non plus nous comparer à du Quentin Tarantino, là, mais il y a quand même ce genre de mélange des genres-là qui est présent, puis ce regard critique sur les clichés qui sont propres à ces genres-là aussi. Donc, le personnage de Valentine nous aide à avoir ce regard-là, justement, sur les deux genres.
C'est ça, puis tu sais, ça sera pas une transition d'un genre vers l'autre. L'aspect western va toujours rester là, même si on ajoute un peu plus de science-fiction. T'sais, on ne veut pas changer le projet. Far Out, ça reste des robots cowboys sur une planète désertique. On amène des nouveaux éléments. On va jouer dans d'autres trucs, mais il n'y a pas une transition d'un western vers un récit de science-fiction. Ça va rester le mélange des deux.
Oui, puis c'est vrai que de toute façon, je disais, il y a un glissement vers la science-fiction, mais comme le disait Gauthier, on garde des éléments western qui sont très présents, puis on intègre d'autres, je dirais, d'autres incontournables du genre. Par exemple, enfin, on intègre le chamanisme là-dedans. Donc, ces espèces d'idées-là, les étendues, les décors, les chevaux. Donc, il y a aussi ces éléments-là qui sont très présents. Et j'imagine que ça reste un peu dans l'a priori. Dans le fond, on est dans une construction de monde. Donc, comment construire à partir de ça? Et pour vous, comment l'élargir au-delà du village de robots qui avait été introduit dans le premier? Donc, on ajoute des extraterrestres. Après ça, oups, on ajoute des gens extérieurs à cet univers-là. Donc, comment réussir à garder cette cohésion-là? Puis, à garder cette ligne-là que vous êtes donnée aussi au départ. Donc, j'imagine que c'est un jeu de construction de monde d'abord et avant tout.
Oui, c'est beaucoup un jeu de world building, là, comme un peu comme si on commençait à travailler sur un jeu vidéo. Là. C'est vrai qu'on aurait pu, commencer cette série-là au tome 4, puis faire un chapitre d'explication d'univers, là, une page en disant bon, voici les éléments que vous avez à savoir, machin. Pour c'est un peu moins intéressant à long terme. C'est sûr qu'on aurait pu faire des prequels, mais c'est comme si on avait fait notre prequel avant. on y allait sans hésitation dans cette direction-là. Je pense que autant Olivier et moi, le world building, c'est quelque chose qui nous intéresse. Faire ça. Ça a toujours été un projet qu'on voulait faire pour le plaisir. Donc, là-dessus, on n'a vraiment pas bouté notre plaisir, en tout cas. C'est vraiment risqué. Là. On a commencé le tome 1, là, il ne se passe pas grand-chose. Il y a un robot qui arrive sur une planète. Le lecteur il est plongé en même temps que le robot dans cet univers-là que personne ne connaît. T'sais, pour les médias, là, comme médiatiquement, là, je ne sais pas pour toi, Raymond, là, mais comme c'est vraiment pas gagnant. Là, comme on n'explique rien.
Mais le premier tome, c'est des ambiances. C'est une ambiance d'abord.
Ouais, 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 beaucoup des ambiances.
Tranquillement, tu rajoutes des couches. Tranquillement, on rajoute de la mythologie. Puis je pense que dès le départ, en fait, on suscite des questions. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette planète-là? Juste l'existence de ça soulève une question. Mais pour moi, c'était beaucoup... En fait, c'était un récit hypnotique, le premier tome. Et là, tranquillement, dans le fond, la série, je dirais pas s'enrichit, mais si vous construisez, j'ai l'impression vraiment couche par couche aussi. Chaque tome amène un peu des nouvelles données pour éviter justement le syndrome de la page résumée qu'on nous plaque en début d'album, puis qui nécessairement nous nécessite une lecture et une relecture. Autant mieux le vivre puis en profiter un peu avant.
Ben c'est ça, c'était vraiment, puis Gauthier, une expression qu'il utilisait souvent, c'était on se crée un carré de sable avec ces trois albums-là, dans lequel après ça, ben, on peut jouer, on peut faire ce qu'on veut, puis amener l'histoire vraiment. Où on le désire, que ce soit avec un autre tome, trois autres tomes, 10 autres tomes. On sait où on s'en va. Le chemin qu'on va prendre pour y aller, ben, on a vraiment beaucoup d'options là, à ce niveau-là. Fait que, on a bien seté notre univers. Puis après ça, ben, les éléments sont en place pour s'amuser encore là, pour un bout.
J'imagine qu'en fait, d'un côté, il y a une logique aussi design à ça. Donc, il faut avoir un univers qui est cohérent avec bon, ses règles, ses couches, comme on disait. Mais d'un point de vue visuel, par exemple, s'il y a les robots qui sont là, cow-boy, non-cow-boy, ben, les robots ont été créés par le peuple qu'on retrouve au troisième tome. Donc, il faut reconnaître des éléments dans l'architecture, dans l'ambiance, dans les formes, etc. Donc, pour saisir un peu qu'on est dans une logique, dans un tout cohérent aussi. Donc, j'imagine qu'il y a un défi de construction... de forme, d'architecture, de technologie, ouais. Dans le fond, du
oui, ben c'est ça joue beaucoup au niveau des logos, au niveau des uniformes. Dans le tome 2, il y a un personnage, Ulysse, la première version, qui a le même uniforme que porte lui-même qui arrive à la fin du tome. On peut voir sur certains robots des logos qu'on va retrouver chez les humains. Donc, on voulait, tu sais, justement, avec ça, donner l'impression que ça faisait partie d'un tout, que c'était pas deux univers qui faisaient une espèce de crossover, mais que ça appartenait vraiment tout au même univers. Donc, c'est sûr que l'architecture, un peu moins, parce que, bon, c'est des robots qui reproduisent un village western avec des déchets là, tombés de l'espace, mais quand on porte attention aux uniformes, quand on porte attention au logo, on voit qu'il y a quelque chose qui rattache tout ça ensemble.
Là. Et donc, on se dit que ben, Olivier Carpentier, côté dessin, avait fait un peu cette analyse-là. Il y avait du design de trucs qu'on retrouve au troisième tome que tu avais, j'imagine, un peu pensé d'entrée de jeu, ou au contraire, on est plus dans une relecture où tu places des éléments, tu les notes un peu de côté, puis après ça, tranquillement, tu les intègres au fur et à mesure que tu grandis ton intrigue, que Gauthier grandit l'intrigue?
C'est un mélange des deux, parce que, tu sais, on savait qu'on s'en allait, donc il y avait des trucs qui étaient prévus, donc Ulysse, notre robot principal, Murphy, de son nom d'adoption, le logo qu'il y a, c'est le logo de la DSC, qui est la faction humaine. Donc ça, on savait que c'était pour revenir. Donc, c'était prévu, c'était planifié. Il y a d'autres trucs, des fois, ben, qu'on va ajuster au fur et à mesure. Puis, en effet, c'est arrivé à des moments où je me suis dit, ah, ben j'aurais peut-être pu faire encore plus de clins d'œil à ce qui était pour arriver à partir du tome 3 avec ce qu'on sait des origines. Mais c'est ça. On avait planifié un bout. Il y a d'autres trucs qu'on aurait pu en mettre plus. Mais c'est un mélange. Hein. C'est vraiment hybride là, de planification et d'adaptation là, au fur et à mesure que l'histoire évolue.
Là. Oui, puis j'imagine que ça vous donne la liberté aussi de dire ben, tel personnage, tel groupe de personnages, ben, on a envie de les développer un peu plus. Donc, d'avoir une liberté aussi puis une agilité pour pas... avoir canné 5-6 albums sans avoir même commencé à dessiner, sans avoir même commencé à faire vivre cet univers-là, c'est Des fois, c'est difficile de prédire ce qui va marcher ou ce qui va cliquer peut-être un peu plus aussi.
C'est long. Puis tu ne sais pas si l'album va marcher. Tu ne sais pas si tu vas continuer. Puis, tu sais, quand je donne des ateliers de BD à des jeunes puis à des moins jeunes, tu sais, je le vois souvent, là, sont embourbés là, dans du world building. Là, puis ça fait 10 ans qu'ils sont sur leur projet. Puis, à un moment donné, arrête, là, écris, dessine, fais-le. T'ajusteras. Tu sais, c'est bon faire du world building, comme Gauthier disait, tu sais, on triple là-dessus, mais ça peut devenir un piège dans lequel tu feras jamais rien finalement. Mm-hmm. Donc à un moment donné, il faut se lancer, puis il faut y aller.
Oui, puis j'imagine en même temps, c'est de faire évoluer le monde aussi à votre rythme à vous, parce que le Gauthier Langevin et l'Olivier Carpentier qui se sont lancés dans Far Out en 2012, 2013, 2014. Et vous deux, aujourd'hui, six ans et plus tard, ben, vous n'êtes pas nécessairement au même point dans la vie, autant au niveau du métier, non. Autant au niveau de votre relation avec cet univers-là. Donc, si c'est trop ancré dans votre jeunesse, ben, j'imagine que l'intérêt de revenir là-dedans est un peu plus d'ouvrir une boîte d'artefacts, de jouets qu'on a mis dans un grenier, plutôt que d'avoir un univers qu'on a encore envie de faire vivre parce qu'il est capable de s'adapter à où on est rendu comme auteur, comme créateur, comme humain.
Ça nous permet de... C'est ça, c'est une série qui évolue avec nous aussi. Là, dans le tome 3, on aborde des thèmes qui sont un peu plus poussés. Là, étant donné que l'univers est bien bâti, ça nous permet de jouer plus dedans avec justement là, des thèmes un peu plus compliqués, un peu plus complexes.
Ça t'a amené une dimension géopolitique.
Un petit peu, tu sais, sans tomber dans les choses trop compliquées, parce qu'on s'adresse quand même à un public de tous âges. Mais on essaie d'aborder les thèmes comme la colonisation, la guerre, à quel point on est toujours condamné à répéter tout le temps le même cycle, justement, là, quand on arrive dans un lieu qui est inconnu.
Puis visuellement aussi, moi, je voulais... Ça fait 6 ans qu'il est sorti le tome 1, puis je voulais pas me restreindre à ce style-là. Les designs des robots de certains robots ont pu changer, évoluer un peu. Puis même graphiquement, entre le tome 1 et le tome 2, j'ai complètement changé de technique. Le tome 1, c'était du gros crayonné avec la couleur digitale par-dessus. Tome 2, ben là, je suis allé avec de l'ancrage, j'ai mis du lavis. Donc le feel, le look est différent. Tome 3, Gauthier et moi, on a pris une grosse décision de mettre le ciel bleu. Je pense que c'est quand on a vu Mad Max qu'on a fait comme OK, on veut le ciel bleu avec notre désert. En tout cas, moi, je sais que ça m'avait frappé beaucoup. Puis, tu sais, c'est une décision purement esthétique, mais ça nous permet, en tout cas, moi, ça me permet de garder le plaisir à le faire puis à le dessiner. Parce qu'honnêtement, je serais malheureux d'utiliser les mêmes méthodes de travail que j'utilisais il y a 6 ans. Puis de me restreindre à ça. Je trouve que c'est correct qu'un album, qu'une série évolue dans le style aussi. T'sais, si on regarde les premiers Lucky Luke, les premiers Astérix, surtout les Lucky Luke, c'est très différent du Lucky Luke qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont fixé rapidement le style, mais quand même, on voit qu'il y a eu de l'essai, de l'erreur, de l'amélioration. Donc,
Oui, puis de voir en fait de comment on peut bonifier un peu les éléments, puis faire profiter les lecteurs des années d'expérience que tu as accumulées aussi au niveau du dessin, d'un côté, mais sans nécessairement perdre l'esprit de la série. Puis ça, je pense que vous réussissez à le garder. Je veux dire, on le disait tantôt, on élargit l'univers, mais on garde quand même l'esprit western. Et au niveau visuel, oui, le ciel est bleu, mais le désert est encore là, l'ambiance, l'esprit de la planète est encore là. Et ça devient d'autant important que comme tu nous fais pour la première fois ou presque sortir de cette planète-là aussi. Donc, l'esprit plus chaleureux, si on peut dire la chaleur de cette planète-là, tranche avec les tonalités beaucoup plus froides que tu vas amener quand on est sur les vaisseaux, par exemple, la DSC.
Oui, c'était... Puis, c'était vraiment important aussi au niveau de... pour la facilité de lecture, qu'il y ait un clash entre ce qui était présent et ce qui était une scène de flashback. Donc, au niveau des tonalités, ça change beaucoup là, d'une scène à l'autre à ce niveau-là. Et puis même quand on est dans le présent, à un moment donné, on se retrouve dans un gros vaisseau de la DSC qui finalement est un univers humain. Bien, là, on revient un petit peu vers les tons bleus, mais il y a le côté un peu poussiéreux puis rouillé qui est encore là. On est sur Far Out, donc ça a été de trouver une espèce d'équilibre, parce qu'on fait souvent des flashbacks, puis c'est important aussi de ne pas perdre le lecteur. Donc
oui, c'est surtout ça. Mais les flashbacks ici sont essentiels pour justement construire le monde, donc il faut saisir. Parce que nécessairement, j'ai l'impression que le tome 3, c'est le genre de tome aussi, après ça, techniquement, les gens, avant de le lire, ont déjà relu avec le temps qui est passé. On lit le 1, le 2, on tombe sur le 3, puis après ça, on va aller voir des détails, on va aller refeuilleter les deux premiers aussi pour bien saisir un peu les éléments, parce que il y a beaucoup de ces éléments de construction-là, donc c'est important que ça soit très clair au niveau du récit aussi, les jeux d'aller-retour dans le temps qu'on fait.
Oui. J'invite les gens à relire le tome 1 et 2 avant de se lancer dans le 3, d'ailleurs. Ça pourrait être bénéfique. Mais c'est ça. Là, moi, à chaque fois que je finis un album, je me dis « c'est le dernier, je ne fais plus. C'est trop long. » Mais c'est ça. Là, ça revient toujours nous... ça vient toujours nous hanter, puis de faire des entrevues comme ça, c'est le fun aussi. Ne serait-ce que pour se replonger dans l'univers du récit, puis ça donne envie de continuer à écrire dans cet univers-là. On a toujours des projets à côté, on se dit on va faire un roman, on va faire une autre bande dessinée, mais de voir que les gens sont attachés à cet univers-là aussi, qu'il y a encore des gens qui nous suivent. 7 ans après, 8 ans après, c'est quand même c'est non négligeable. Puis je pense qu'il faut respecter ça aussi. La science de tout ça, c'est de voir de quelle manière on continue à rester nous-mêmes puis à être honnête par rapport à notre projet littéraire dans cet univers-là. T'sais, de dire, donc peut-être tome 4, il va avoir un saut de 50 ans dans le temps. Il va peut-être avoir plus d'influence de d'autres choses qu'on a lues, mais c'est sûr que ça reste un univers qui est très qu'on aime beaucoup là, aborder.
Oui, ben en fait, j'ai l'impression qu'il est né un peu de ça aussi. Je veux dire, vous êtes des tripeux de Western, les films de Léoné pour un, les BD Western pour l'autre et pour les deux. Donc, c'est un projet qui est né de ce que j'en avais compris à l'époque, d'un trip aussi, l'idée de s'approprier l'univers Western, de s'amuser avec les codes, la science-fiction. Donc, si vous perdez un peu ce plaisir-là, puis on le fait par routine ou par obligation, ben, on perd ce qui était l'essence de Far Out pour vous deux, puis nécessairement pour le lecteur, parce que, je veux dire, un album qui est fait dans le plaisir, il y a quelque chose d'imperceptible, mais on finit par le sentir, je veux dire.
Ouais. Et, c'est ça, ça a toujours été pour nous du gros fun, Far Out. Là, c'est, on prend ce qu'on aime, on le met ensemble, on crée quelque chose là-dedans, puis en effet, la journée qui aura plus de plaisir, ben ça va être la journée qu'on va tirer la plug. Mais dans notre cas, je pense que le plaisir est encore là. Puis c'est pour ça aussi, tu sais, quand je disais je travaillais sur l'album de Juste pour rire, tu sais, puis j'avais tellement hâte de retourner sur mes robots cowboys. Donc c'est ça, tu sais, c'est un projet de fun. C'est un projet que Olivier Design me fait un high five quand il voit ça. Cool, tu fais des robots cowboys, une BD, c'est du gros trip. Puis ça, je pense que les lecteurs aussi, ils sentent. Puis c'est pour ça aussi qu'ils trippent avec nous autres. Puis qu'ils continuent de nous suivre. Puis pendant 5 ans, ils nous demandaient à chaque convention quand est-ce que ça tombe 3, quand est-ce que ça tombe 3.
Oui, puis il y a quelque chose de le fun, en fait, dans le design, même juste dans l'esprit général de cette série-là, puis dans tes robots, après ça, le peuple extraterrestre qu'on trouve sur Far Out aussi, dans le fond, c'est des créatures que tu as réussi à rendre très expressives aussi. En fait, pour les créatures, c'est tel que tel, mais pour les robots, c'est pas évident, j'imagine, de trouver un bon design qui permet justement cette expressivité-là, d'un côté. Puis après ça, de l'autre, comment intégrer le design de ton humaine, qui là, est beaucoup plus présente. Elle apparaissait seulement dans quelques planches à la fin du 2. Donc là, elle est au cœur de l'album. Et subitement, en fait, on se retrouve avec une esthétique qui nous rapproche plus aussi de notre réalité à nous. Donc là, on la met en relation avec l'univers que tu avais construit sans cet apport-là. Donc, j'imagine qu'il y a quand même... Comment s'est fait un peu le travail de conception de tout ça, ton travail de casting, dans le fond, d'un peu tout ça?
Dès le début, tu sais, le choix était clair que les robots, fallait qu'il y ait des expressions. C'est de la triche, là. Ils ont la face molle, les yeux qui grandissent, ça tord pour sourire. Puis c'est important parce que ça fait partie du fun, sinon ça aurait été un peu plus austère. Puis sont pas réalistes, sont pas hyper cartoon, mais sont quand même cartoony. Puis j'essayais de donner ce même feel-là, tant au niveau des Lacerta, là, le peuple qui habite déjà la planète, qu'au niveau des humains. Donc, beaucoup de détails dans les costumes, dans les accessoires, dans les petits détails, mais avec des faces quand même très cartoony, tant pour les robots, les Lacerta, que les humains. Fait que je pense qu'avec ça, il y a un feel visuel là, qui est cohérent. Puis que ça s'agence bien ensemble.
Puis là, tu rajoutes, dans le fond, l'humain qui doit s'agencer avec ça aussi, dans le fond. Donc, c'est cette fille rousse, athlétique, militaire, du moins en uniforme, donc qui arrive un peu là-dedans. Faut qu'elle s'insère sans faire un clash, autant au niveau psychologique, dans le fond, j'ai l'impression, puis autant au niveau esthétique aussi.
Oui. Il y a quelqu'un d'aventureux, quand même. Donc, ça prend quelqu'un avec c'est ça, un sens de l'aventure. Puis, ben, au début, notre modèle, c'était Meg Ryan, en fait. Olivier, il s'en souvient plus.
Oui, mais... mais tu sais, plus on en parle, plus ça fit, là. Le monde a commenté, d'ailleurs, là-dessus. Puis, en regardant une photo, je suis... Ben ouais.
Il y a une influence cachée.
Ouais, non, mais c'est quand on travaillait à designer, Gauthier avait suggéré, parce que c'est une technique là aussi en design, d'essayer de trouver un casting humain qui existe, puis il avait suggéré Meg Ryan, puis on en a reparlé la semaine passée, puis j'ai complètement oublié ça. Puis quand tu vois des photos puis le dessin, je dis « Ah, ben, finalement... il l'a pas halluciné, là. C'est probablement moi qui ai un trou de mémoire.
Puis elle aussi qui amène avec un petit côté un peu cartoon, expressif, mais avec un ancrage quand même plus réaliste un peu côté de... En fait, du moins qui réfère à un réalisme qu'on connaît, parce que dans le fond, tes autres personnages aussi, il faut qu'ils soient réalistes, il faut qu'il y ait un mouvement, une approche qui se tienne, mais on a plus de références pour comprendre, pour analyser le mouvement, l'esprit, le faciès d'un personnage humain, par exemple. Que
les cheveux courts aussi, c'était ouais. Pour ça. Ça permet d'être plus expressif. On focus plus sur le visage. On s'identifie plus aussi à des visages où il y a moins d'informations. Donc, je pense que tout ça a joué dans la conception de Valentine. Le design, c'est quelque chose qui intéresse Olivier et moi aussi là, beaucoup. Là, je pense que c'est pour ça aussi l'intérêt pour le lore, pour le world building. C'est des éléments de design aussi, là, de faire du sens avec beaucoup d'informations qui ne sont pas nécessairement desquelles le public n'est pas nécessairement familier.
Puis en même temps, bien, on parlait beaucoup de renouvellement aussi dans tout ça, bien, nécessairement. À travers Valentine, on amène aussi beaucoup ce renouvellement-là, ce nouveau type de personnage. Elle amène une nouvelle esthétique, elle amène des nouveaux sujets, elle amène une opportunité de développer la mythologie. Donc, c'est aussi elle, le nouveau souffle, mais presque dans la série, après avoir comme exploré vraiment l'ambiance western dans les deux premiers, de la garder, mais d'ajouter cette dimension-là. Donc, ça suit un peu la volonté de poursuivre l'évolution de cette série-là, dans le fond.
Oui, ben on n'avait pas nécessairement... On n'avait pas le besoin... On aurait pu rester avec les personnages robotiques là, dans l'univers de Far Out, mais on avait quand même... on voulait lier ça avec la planète Terre. On voulait lier ça dans le temps aussi. On avait besoin absolument là, d'un personnage féminin, ben, d'un personnage humain pour venir expliquer tout ça. Et puis après ça, ben il y a le. Non, c'est ça. Cet aspect-là était important pour nous là, de venir lier tout ça avec un personnage humain.
Ça donne plus de profondeur, tu sais, parce que en effet, on aurait pu juste continuer avec des robots cowboys sans donner trop d'explications. Puis tu sais, ça aurait pu fonctionner, on aurait pu faire une histoire, ça aurait peut-être été plus goofy. Mais d'introduire ce personnage-là, ben là, ça vient donner un peu plus de, j'ai quasiment envie de dire, de sérieux ou de profondeur à l'univers dans lequel l'histoire évolue. Mais effectivement, on aurait pu faire une BD sans elle.
Oui, enfin, après avoir lu le tome 3, ça serait bizarre. Là,
oui, non, c'est ça. Ben, c'est... Il n'y a plus de retour en arrière. Là.
Et on invite les gens à découvrir justement comment la série a évolué, évidemment, en retournant vers le tome 1, le tome 2 et ensuite le tome 3, donc pour replonger dans cette série Far Out. Et en terminant, dans le fond, est-ce qu'on a déjà un échéancier pour l'éventuel tome 4? La porte est ouverte quand même à ça. Est-ce qu'on se dit dans 5 ans éventuellement ou au contraire un peu plus court terme?
C'est Olivier qui m'a décidé de ça.
Ben, c'est tout le temps... Là, on se fait pas de cachette. L'enjeu est tout le temps financier. Donc là, tu sais, bon, j'ai mon emploi dont j'ai besoin. J'ai quelques petits contrats là, d'albums jeunesse plus courts. Mais c'est ça. C'est un enjeu financier, que ce soit par du sociofinancement, que ce soit par peut-être un jour je vais réussir à avoir une subvention. Ben là, à ce moment-là, ça, il y aura possibilité d'avoir un rythme de production plus soutenu. Mais je ne peux pas continuer de faire du 80 heures semaine là, jusqu'à ma mort. Là, parce qu'elle va arriver vite.
Donc, on se dit éventuellement.
Éventuellement, mais il va en avoir un.
Alors, ben, d'ici là, comme je le disais tantôt, on a 3 tomes à se mettre sous les dents. Gauthier Langevin, scénariste, Olivier Carpentier, dessinateur. Merci beaucoup à vous deux.
Merci vraiment.
Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD et on va se lancer pour les prochaines minutes vers quelques commentaires BD. Commentaire BD sur Anaïs Nin, Sur la mer des mensonges. Superbe, superbe BD de Léonie Bischoff. C'est du côté de chez Casterman. Belle découverte en fait, cette bande dessinée, et surtout la façon par laquelle Léonie Bischoff rend cet univers, celui d'Anaïs Nin, et donne corps à cette autrice marquante, à cette autrice majeure. Alors, peut-être premier élément qui en ressort particulièrement, c'est, je pense, cet a priori que Léonie Bischoff a de donner plusieurs voix, plutôt qu'une seule voix, à Anaïs Nin à l'intérieur de ce récit. Donc, question peut-être de rendre un peu le tiraillement qui l'amène entre différentes facettes d'elle-même, dans cette quête d'elle-même également qui est mise de l'avant à l'intérieur de ce récit. On se reporte un peu pour contextualiser. Donc, on est dans une adaptation BD d'une partie, d'une portion des œuvres d'Anaïs Nin. Donc, c'est son journal de l'amour. Donc, on est autour des années 1930 et donc, on retrouve Anaïs Nin qui vient d'arriver dans une nouvelle ville, qui cherche un peu à s'établir. Donc, on est à Paris. Son conjoint, donc, a pris un métier qui lui plaît peut-être un peu moins, métier de banquier, pour permettre à Anaïs Nin de se consacrer à la création. Et à l'intérieur de cette relation-là, ben, elle va pas réussir à trouver le moteur créatif dont elle a besoin. Éventuellement, elle va rencontrer Arthur Miller qui va lui offrir peut-être un peu justement cette énergie-là, cet accompagnement-là aussi, ou cette liberté de création-là. Mais en même temps, l'autre relation demeure essentielle. Donc, il y a un début de tiraillement. Éventuellement, on ajoute aussi à ça d'autres individus, d'autres personnages, entre autres l'épouse aussi d'Arthur Miller, avec qui elle va avoir une certaine relation également. Donc, on est beaucoup dans une recherche d'une certaine liberté, dans une recherche d'une liberté de créer, dans la volonté d'atteindre et de pousser, de permettre cette création-là, dans une recherche du feu créatif. Donc, bref, il y a une recherche de soi-même, si on peut dire, qui est ancrée à l'intérieur de cet ouvrage-là, où on sent justement que Anaïs Nin va se découvrir et va découvrir ce dont elle a besoin à travers ces différentes relations-là. Chaque relation lui amenant quelque chose dont elle a besoin, chaque relation l'amenant soit plus loin ou soit lui apportant un soutien support. Et donc, comment on compose un peu avec cette logique-là? Et à travers tout ça, ben, évidemment, la création elle-même, donc l'écriture, la discussion autour de l'écriture. Donc, c'est très riche, si on peut dire, en termes de propos. Et évidemment, ça se base sur des livres qui sont solides eux aussi, au minimum. Alors, donc, c'est certain qu'il y avait là matière quand même à faire quelque chose de très stimulant, mais on a vu dans des adaptations, il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des enjeux, des défis qui ne sont pas relevés. Donc, ce n'est pas du tout le cas là-dedans. Donc, vraiment, je disais tantôt, elle donne corps, Léonie Bischoff, à Anaïs Nin d'abord, puisqu'on parle d'une BD biographique, et elle donne corps à l'Anaïs Nin telle qu'elle s'est racontée, telle qu'elle s'est livrée dans ses journaux. Et donc, on revient à l'idée des pluralités de voix pour exprimer justement ce tiraillement-là entre les différentes relations, mais surtout entre les différentes facettes d'elle-même qu'elle va aller attraper dans cette quête-là qu'elle a. Et comment elle va, à travers tout ça, se trouver elle-même et bien s'ancrer aussi elle-même. Donc, c'est vraiment ce qu'on découvre dans cet album. Un album qui est très, très coloré, qui est vraiment superbe aussi, là, dessiné donc au crayon de couleur avec plusieurs pages qui sont absolument magnifiques, là, sincèrement. Des compositions qui sont à différents traits dans un ensemble qui est, disons, duquel il émane une belle quiétude, une belle lumière aussi, et dans lequel on va être capable également, par le biais du visuel, d'aller nous chercher des moments plus fantasmés, d'aller nous chercher des moments de création aussi, d'ancrer cette dynamique-là, cette étincelle-là. Donc, bref, vraiment un coup... Une réussite, disons-le comme ça, j'allais dire un coup de maître, on peut dire une réussite de Léonie Bischoff avec cet ouvrage-là. Sincèrement, dans les BD autobiographiques, dans les BD biographiques, pardon, dans les adaptations, c'est vraiment quelque chose de réussi et de façon générale, un ouvrage, un personnage, un univers, une réflexion qui est porteuse. Donc vraiment, là, de mon côté, recommandation pour Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. Je le rappelle, c'est chez Casterman. Ça fait pas très longtemps, donc Dimitri, Armand et Tristan Houlou nous sont arrivés avec cette bande dessinée, Le Convoyeur. Vraiment, premier tome, en fait, d'un univers qui est diablement intéressant, là, vraiment. Et je pense que c'est toujours un peu l'intérêt des premiers tomes. Je veux dire, on établit les règles, on établit les bases. Est-ce qu'on est capable de les établir de façon à ce que ça soit, d'un côté, facilement compréhensible, perceptible pour le lecteur, de l'autre, qu'on n'ait pas de longues édifications, une complexité, donc qu'on puisse comprendre cet univers-là dans un contexte actif. Et vraiment, on se retrouve avec un récit d'introduction, si on peut dire, avec ce premier tome, donc Nymphe. On a les bases de l'univers, on a la dynamique du personnage principal, son esprit, sa caractérisation, et on sent qu'il y a quelque chose, en fait, à bâtir à partir de ça. D'un point de vue mythologique, d'abord, dans l'esprit, dans la création de l'univers dans lequel le récit se trouve, dans la création du personnage, dans sa mythologie personnelle, mais également avec les règles, avec les bases, mais de quelle manière, après ça, au fil des récits, on va se les approprier, les pousser un peu plus avant, les amener ailleurs. Donc, quel jeu on va pouvoir offrir autour, justement, de cet ouvrage et de cette série, de cet univers, de ce personnage. Donc, ça sera intéressant de voir comment ça va se développer. Donc, peut-être justement, je vous parle de l'univers, là. Allons-y avec ça. Donc, on se retrouve dans un futur qu'on espère éloigné, évidemment, quand on est dans des mondes post-apocalyptiques. On espère que l'apocalypse sera loin. Mais donc, dans un contexte où on dit, ben, regardez, si l'apocalypse, elle venait du métal. Si le métal, s'il y avait quelque chose, une bactérie ou je ne sais trop, qui se retrouvait à manger, dans le fond, le métal, donc notre monde, notre société qui est basée sur le métal, eh bien, s'effondrerait littéralement. Donc, on ne pourrait plus faire grand-chose si on n'a plus accès à cet élément. Donc, d'un côté, côté machine, de l'autre côté, construction. Donc, qu'est-ce que ça change pour les transports, pour les déplacements? Donc, évidemment, on retourne vers l'arrière, on retourne avec d'autres types de matériaux, avec les chevaux pour les déplacements. Donc, certains services qui étaient plus nécessaires, qui retrouvent leur raison d'être. Donc, il y a le côté structure sociale, mais en parallèle, il y a aussi le côté humain, parce que le métal, on en a en nous, donc de l'hémoglobine. Et dans le sang, ben, si la bactérie mange aussi ce métal-là, donc est-ce que ça peut amener, ben, d'un côté, une diminution de la population, mais de l'autre, des mutations, des impacts autres. Alors, ce qui nous permet d'aller chercher aussi dans cette mythologie-là des mutants, des monstres. Donc, de jouer un peu avec notre perception aussi de cette humanité-là, avec d'autres types d'impacts qu'aura cette bactérie. Donc, déjà, d'un côté, je trouve que c'est un univers qui est intéressant. C'est pas quelque chose qu'on a eu beaucoup l'occasion de voir dans une logique post-apocalyptique, donc cet a priori-là. Donc, il y a un intérêt. Et ça revient à ce que je disais d'entrée de jeu. Donc, on trouve une racine qui est originale. Alors, on va être capable de l'amener de façon, je l'espère, aussi originale. Donc, on a quelque chose de bien placé, de bien ancré, d'intéressant, de surprenant, de nouveau. Donc, on va être capable de l'amener, je l'espère, ailleurs. Évidemment, le personnage principal, on le voit sur la page couverture, c'est le convoyeur. Donc, on est dans un héros un peu, un héros taciturne, de peu de mots, qui a des principes, des règles. En fait, lui, il fait des commandes. On fait appel à ses services. Il fait le service. Il refuse jamais. Pourquoi il s'est mis dans cette dynamique-là? Qu'est-ce qui vient avant? Pourquoi il est comme il est? Donc, évidemment, il a quand même des pouvoirs, une certaine puissance. Donc, de quelle manière ça a pu s'orienter pour l'amener où il en est. Donc, dans la construction du personnage, c'est intéressant. Évidemment, ça donne un personnage qui a un certain recul un peu face à l'action, donc qui n'est pas nécessairement en plein cœur de la situation politique qui va se vivre autour de sa mission, du moins dans ce premier tome. Mais il va être donc en marge de tout ça. Donc, de quelle manière se positionne-t-il? Éventuellement, est-ce qu'il va avoir un rôle plus actif dans le développement de la politique du récit, parce qu'évidemment, il est très actif dans le récit lui-même. C'est lui qui va dénouer l'impasse, mais il n'y a pas d'investissement émotif. Dans le fond, il a un service à rendre, à réaliser. L'investissement émotif, il est chez les autres. Et donc, en même temps, bien, ça nous permet justement de découvrir un peu la dynamique de ces autres-là, les forces en présence et le reste. Donc, c'est très bien ficelé. Et sincèrement, moi, quand je lis un premier tome, si j'ai envie justement de lire le deuxième, de plonger dans cette série-là, je me dis, bien, le premier tome a accompli ce qu'on lui demandait, donc de nous introduire à un univers, de nous intéresser à cet univers-là et nous donner envie de poursuivre. Donc, ce sera intéressant de voir maintenant comment on va poursuivre justement dans le deuxième tome. Donc, ce sera peut-être le grand test pour cette série. Mais sincèrement, d'un point de vue visuel, donc on est dans un dessin qui est quand même assez réaliste, mais qui est très bien fait aussi, dans le fond, dans les créatures, la façon dont on les rend. Un visuel qui est quand même assez, axé sur certaines tonalités, les rouges qui sont assez présents. Donc, bref, le dessin est solide, le récit est solide, un premier tome solide, je le redis. J'ai hâte de voir le deuxième, mais d'ici là, ben, en fait, c'est vraiment bien. Comme première lancée d'univers, là, très satisfaisant de mon côté. Donc, ben voilà, donc de Dimitri Armand, Tristan Rouleau, donc Le Convoyeur, tome 1, Nymphe. Donc, c'est du côté du Lombard. On s'en va vers la côte, vers l'océan, avec La Dernière Rose de l'été, une BD de Luca Harari. Luca Harari, donc, c'est chez Sarbacane, un nom qu'on connaît déjà, qui va faire du bon matériel. Une deuxième BD, donc, qui était quand même assez attendue de ce côté. Et ben, déjà, d'emblée, on se retrouve dans... J'ai l'impression ce qui frappe, en fait, disons-le comme ça, ce qui frappe avec cette BD-là, c'est les décors, c'est l'ambiance, c'est la couleur. Donc, on se retrouve en pleine vacances, en plein hiver, très, très chaud, très chaleureux. Et donc, ce qui fait qu'il y a une couleur, il y a une ambiance qui s'en dégage. Donc, un côté peut-être un peu rétro, un peu années 70, j'ai l'impression, un peu, dans le grain, dans la granularité de ça. Et dans la couleur, il y a une chaleur, mais un côté un peu délavé aussi, un peu le filtre un peu de la vieille photo de l'époque. Donc, ça donne une ambiance assez particulière. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment la première chose qui frappe avec ce récit-là, c'est l'ambiance qui en ressort, qui en découle et qui est grandement due au dessin et grandement due au choix des couleurs. Donc, on se retrouve en fait côté récit, un peu thriller, polar, donc un type qui, pour une raison X, croise un cousin qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. Donc, le type, lui, est auteur et il se fait offrir par le dit cousin l'opportunité d'aller faire quelques mois dans une villa sur la côte parce que, ben, de toute façon, lui doit s'éloigner, veut partir en croisière, donc avec une maîtresse, et il se dit, ben, regarde l'autre, il veut écrire un livre, il n'y a personne d'autre disponible, donc bref, l'auteur accepte, décide de se rendre à la villa, et de ce qui aurait pu être un séjour tout à fait banal, eh ben, finalement, il y a une voisine, il y a un voisin. On ne sait pas exactement au départ quelle est leur dynamique, donc entre la jeune fille et un homme qui aurait l'âge d'être son père. Donc, comment ça se passe de leur côté? Il y a des fêtes au départ, mais éventuellement, la police est là. Éventuellement, il y a peut-être un mort. Donc, on se retrouve un peu dans une intrigue. Et l'auteur, donc, qui est un peu le témoin, dans le fond, de cette intrigue-là, dans lequel il sera appelé en cours de récit à prendre un rôle de plus en plus actif. Donc, il fera le choix, en fait, de prendre un rôle de plus en plus actif à l'intérieur de ce récit-là. Donc, en soi, c'est certain qu'on se retrouve avec une situation où on suit un héros, au bout du compte, qui n'a pas, lui, une grande complexité. Dans le fond, il est là, il est le témoin, il choisit éventuellement de s'impliquer, de s'engager dans le récit, il n'a pas d'arrière-pensée particulière, il n'y a pas de passé un peu sombre, il n'y a pas d'implication directe à l'intérieur de l'histoire. Donc, ce qui fait que c'est peut-être, d'un côté, une opportunité peut-être un peu ratée, disons-le comme ça, d'exploiter un peu ce personnage-là avec en plus la place qu'il prend à l'intérieur du récit. Mais de l'autre, ça a le bénéfice de nous offrir quand même un récit qui est assez linéaire et de laisser surtout beaucoup de place justement à l'ambiance. Beaucoup de place au visuel, beaucoup de place à la mer, au soleil, à la plage, à ces vacances-là et au final à un récit qui va beaucoup passer justement par cette ambiance-là pour nous amener vers un esprit un peu polar. Donc, on aurait aimé qu'il aille peut-être un peu plus en profondeur sur certains points. Je donnais l'exemple du personnage principal. Donc, c'est un récit peut-être un peu linéaire, mais visuellement, c'est beau, c'est plaisant. Et on peut imaginer que c'est pas des choix qui ont été faits par hasard non plus au niveau du récit. Donc, on mise un peu sur certains aspects pour rendre un peu cet esprit polar, pour nous l'offrir, pour l'intégrer, pour le développer. Donc, en ce sens, si c'était là l'a priori, ce qu'on peut s'imaginer, bien, ça marche, ça fonctionne. C'est rythmé, ça roule, ça déboule de façon quand même logique. Nonobstant les petits défauts, ça reste un album que j'ai trouvé fort sympathique. On sent qu'il y a vraiment quelque chose, qu'il y a une réflexion, qu'il y a un concept aussi derrière ça. Et ça, j'apprécie aussi beaucoup. Donc, si l'intrigue peut être un peu plus mince, mais avec une ambiance qui est forte, un visuel qui est vraiment agréable, si c'est quelque chose qui vous attire, qui vous intéresse, ben cette dernière rose de l'été de Luca Harari peut être, il va s'en dire, une belle option. Donc, c'est de Luca Harari, je le rappelle, La dernière rose de l'été, et c'est chez Sarbacane. Alors, on poursuit un segment qu'on avait débuté le mois dernier et qu'on poursuit ce mois-ci. Donc, on suit les lectures mensuelles de Stéphane Gravel, collaborateur régulier de l'émission. Stéphane, salut!
Écoute, je suis quand même assez étonné de voir la quantité de BD qu'on peut lire en quelques semaines. J'en ai lu pas mal. J'en ai lu pas mal. Je trouvais que je lisais plus de bande dessinée. Je trouvais que je mettais plus de temps, mais dans le fond... on s'en rend pas compte, c'est un peu comme n'importe quoi. On met du temps un peu à gauche, un peu à droite, puis là, pop.
Il s'agit de laisser des livres tourner ou des livres traîner, puis on les prend. En fait, à la limite, c'est un bon substitut au téléphone, parce que s'il n'y a pas de livre sur ma table ou autour de moi, puis que c'est plutôt mon téléphone intelligent qui est là, je vais prendre le téléphone. Mais s'il y a des livres pas trop loin qui sont en cours d'être lus, bien là, subitement, oups, c'est les livres
qui tombent dans la balance. Faut mettre le téléphone en dessous, là. Puis d'ailleurs, dans mes bandes dessinées qui traînaient puis que j'avais mis un peu de côté, il y a le Charlotte l'impératrice qui est paru, le tome 1 est paru il y a un an peut-être, Raymond, environ. Là, le tome 2 venait de paraître. Puis là, moi j'avais cette BD-là qui traînait chez nous, puis je l'avais pas lu parce que je le sais pas. Je ne sais pas, je n'embarquais pas. Je ne sais pas si toi, tu l'as lu. Je ne sais pas si tu as fait.
Non, j'ai pas lu, mais je comprends ce que tu veux dire. Des fois, ça ne clique pas. On dirait que tu regardes les trucs. Tu n'as pas envie de t'installer dans une BD à un moment précis.
Ben, Charlotte, impératrice de Belgique, ça. Je ne sais pas. J'avais le goût de voir des gens s'arracher des têtes. J'étais plus dans le mode super-héros. Mais j'avais pas ce beat-là. Là. Puis, mais là, j'ai dit, tu sais, une journée assez calme où. Et la température était pas très belle. J'ai dit, je vais commencer ça. Et là, j'ai eu énormément de plaisir. Bon. Vraiment, c'est bon. C'est bon, c'est... Nuri est un scénariste extraordinaire. Je pense que là il prouve. Là, c'est bien écrit, les dialogues sont beaux, c'est fluide. Mathieu Bonhomme a un dessin qui lui aussi est assez singulier. Il y a un dessin qui est très, très franco-belge dans cette bande dessinée-là, très classique, mais qui fonctionne très, très bien avec l'histoire. Et cette histoire-là de Charlotte, impératrice de Belgique, ben, elle est juste fascinante. Donc, t'embarques dans un univers de Nuri, t'embarques dans un univers de Mathieu Bonhomme. Puis là, j'ai lu les deux tomes à une vitesse, bout à bout. Puis, je me suis senti un peu comme, je vais comparer avec la télé, là, mais comme quand je me suis attaqué à la série The Crown sur Netflix, où je ne savais pas si j'avais le goût de voir l'histoire de la Reine d'Angleterre, mais que je me suis laissé prendre par la beauté de cette série-là et par la façon dont c'était extrêmement bien raconté. Bien là, avec Charlotte, impératrice, on est là-dedans. Puis, elle est vraiment, vraiment, vraiment un personnage hyper intéressant, cette Charlotte-là. On la connaît pas bien, là.
Non, c'est bien fait. Je veux dire, je mettrais le défi. Il y a certains dirigeants comme ça qu'on connaît de réputation, mais Charlotte, je vous avoue, je ne connais pas tant que ça.
On ne la connaît pas. Elle a été impératrice du Mexique pendant que son mari, lui, avait des aventures diverses avec la boisson et les jeunes demoiselles. C'est elle qui, pendant 3 ans, a pris le contrôle du Mexique pendant que le Mexique était en crise. C'est l'époque des tsars, c'est une grande époque de l'histoire. Puis, écoute, c'est tout à fait fascinant de la découvrir. Puis, c'est tout à fait aussi fascinant de découvrir un pan d'histoire que je pense qui nous a été complètement inconnu parce que c'était peut-être parce que c'était la Belgique, je ne sais pas. Mais c'est très bon, très, 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 très bon.
Alors ça, Charlotte, ça vaut la peine de passer par-dessus. On la laisse traîner au pire, puis éventuellement on plonge et peut-être comme toi, on enfilera les deux tomes. Une expérience de lecture.
Je voyais beaucoup de critiques qui disaient que ça faisait partie probablement des grandes séries ou de la BD de l'année dans des magazines et tout ça. Puis j'avais jamais embarqué, mais vraiment, je pense que oui. Je pense que c'est du grand Nuri, là, encore une fois.
Et autre titre, tiens, si on passe d'une lecture à l'autre, Rochette, t'es tombé dans du Rochette aussi.
Ouais, ben moi j'aime beaucoup Rochette. Des fois, je me demande si je suis pas tout seul dans mon coin à aimer. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui aiment Rochette. Encore une fois, là, moi, quand Rochette avait sorti son album sur l'alpinisme, là, qui elle froide là, sur sa montée des monts et sa difficulté à gravir ces montagnes-là, j'avais trouvé qu'il avait fait une bande dessinée qui était sensible, qui était remarquable au niveau de son graphisme, au niveau de la façon de raconter l'histoire et surtout au niveau de l'atmosphère qu'il réussit à mettre dans ces histoires-là. Parce que c'est pas quelqu'un qu'on peut considérer comme étant un grand dessinateur. C'est-à-dire que son dessin, il va plaire à certains, il va déplaire à d'autres. Parfois, c'est très froid, c'est très figé, mais il raconte des images figées dans le froid aussi. Donc, il y a quelque chose que j'aime bien dans son esprit narratif, puis dans sa façon de dessiner et de raconter ces histoires-là. Puis là, Le Loup est une BD qui est sortie quand même il y a un petit bout de temps aussi, que j'avais pas réussi à la trouver, j'avais pas réussi à l'acheter encore. Et là, je me suis acheté cette BD-là, et c'est l'histoire d'un homme qui, classique, histoire qu'on a vue 1000 fois peut-être, qui a une relation particulière avec un loup, car ce loup-là mange son troupeau de moutons. Donc, c'est l'histoire entre l'homme et le loup, et entre la guerre entre l'homme et le loup, mais la guerre aussi dans une zone où cet homme-là n'a pas le droit de chasser, n'a pas le droit de tuer, parce qu'on est dans des aires naturelles protégées. Okay. Écoute, c'est intéressant, tu le vois tout de suite, là, c'est... Puis là, on est à mi-chemin entre l'auto-bio puis la fiction. Ça semble être l'histoire de peut-être son père, peut-être son grand-père. C'est pas clair, mais c'est pas grave. On a une histoire qui est très prenante et on a une histoire de questionnement aussi sur la place de l'homme dans la nature et sur la place du prédateur dans la nature. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que lui... son troupeau pour se nourrir et si le loup continue à menacer ainsi son troupeau, peut-être qu'il ne pourra plus se nourrir. Mais lui est contraint par la loi de ne pas pouvoir devenir le prédateur du loup. Mais le loup, lui, parvient à être prédateur de l'homme. Est-ce que l'homme, à ce niveau-là, a une place dans la nature ou pas? C'est un peu la question qu'on se pose. C'est super bon. Lis ça, lis ça. Je la montre même. C'est très, très bon. C'est très intéressant. Puis là, ben là, ça m'a amené dans tout un questionnement sur le, pas l'autofiction, mais sur les auteurs de bande dessinée qui de plus en plus, je trouve, se mettent comme un personnage de leur album ou deviennent un personnage, quoi. Fait que ça m'a amené à d'autres lectures. Puis là, ça m'a amené à une BD que je voyais qui était sortie chez Futuropolis, qui est « La femme papillon » de Grégory Mardon. Grégory Mardon, je pense que je lis tout ce qu'il fait. J'aime son dessin. J'aime pas toujours les histoires, mais j'aime son dessin et j'aime prendre plaisir à regarder son dessin.
Et des fois, des valeurs sûres, comme ça, où on dit on reconnaît un style, on a envie... Il y a un style qui transparaît, on a envie de replonger dedans, qui appelle à un revenez-y, là, comme on dit.
Absolument, moi ça me plaît. Puis j'ai lu des histoires de lui que j'ai trouvé un peu ordinaire, mais c'est pas grave, j'aime le dessin. C'est comme si, à un moment donné, je sépare l'écriture du dessin, puis je regarde une bande dessinée au lieu de lire une bande dessinée. La femme papillon, c'est pas une grande bande dessinée, mais Grégory Mardon, encore une fois, un peu comme Rochette tantôt, se met comme personnage de sa bande dessinée. Il est un auteur en crise existentielle, comme il fait souvent. Et puis là, son éditeur, chez Futuropolis, donc est-ce qu'on est dans la fiction ou on l'est pas, je le sais pas, mais son éditeur lui demande de faire une bande dessinée de super-héros, parce que les super-héros, ça marche, puis il voit bien faire les super-héros. Moi, personnellement, je ne vois pas du tout Grégory Mardon faire du super-héros, en tout cas pas à l'américaine, mais il décide qu'il va plonger puis qu'il va faire une bande dessinée sur une femme papillon qui est une femme avec des super pouvoirs et qui il va animer ça et on va le voir dans cette bande dessinée là animer et faire vivre son personnage de femme papillon. J'ai pas le goût d'aller plus loin que ça parce que ça va plus loin que ça. C'est sûr que on a une bande dessinée qui n'est pas une bande dessinée américaine. On est aussi dans la mode où on mélange fiction, réalité, les multivers et compagnie. Tout se mélange un peu là-dedans. Ça devient extrêmement complexe. Assez charmant, merci. Assez agréable. Pas un chef-d'œuvre, mais une très, 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 très belle détente. J'ai vraiment... Écoute, je suis tout positif aujourd'hui. Là. J'ai vraiment aimé lire cette BD-là. Là. C'est, un, j'aime le dessin de Mardon. Deux, l'histoire est cucu, mais tu sais, un cucu fun, coupable.
Du bon cucu, là, tu sais,
ouais. Un bon petit cucu, là. J'ai aimé ça. Il faudrait pas qu'il m'entende dire ça, par contre, mais...
Non, ben, en fait, on pourrait l'interpréter plus dans le dé qu'on n'a pas... Ça mène pas nécessairement à un récit d'une grande complexité. On se prend pas la tête, mais c'est un bon moment. C'est un cours d'eau qu'on suit agréablement, si on peut dire.
Mais on se la prend quand même un peu.
Quand même.
On se la prend quand même un peu. On se la prend un peu dans la structure du récit.
Ça, c'est le bout que tu voulais pas dévoiler parce que...
Je ne veux pas trop dévoiler, mais il se passe quelque chose. Parce que sinon, sinon, ça fait partie du plaisir de lire, c'est de voir jusqu'où ça va aller. Si je commence à dire qu'est-ce qui se passe, ça ne marchera pas. Mais puis, de fil en aiguille, c'est ça qui est merveilleux dans le thème qu'on a, je trouve vraiment. C'est que c'est comme si je te racontais mon mois de lecture dans la suite consécutive des événements de mon mois de lecture. Puis là, je me suis dit, il me semble que j'avais vu à quelque part que Paul Dini avait fait une BD sur lui et sa relation avec Batman. Fait que je me suis mis un petit peu à fouiller, c'est pas bien, bien difficile à trouver, j'ai pas fouillé longtemps, mais il a fait une BD, ça fait pas si longtemps, qui s'appelle Dark Knight, une histoire vraie. Parce que Paul Dini, auteur de Batman, surtout au niveau des comics de dessins animés, là, lui, il a travaillé sur la série, la nouvelle série de dessins animés chez Warner, là, la série qui a fait un tabac. Il était un des scénaristes qui travaillait là-dessus. C'est lui qui a créé le personnage de Harley Quinn. C'est un personnage qui a été créé.
Il y a des bonnes lettres de noblesse.
Ouais. Non, c'est pas n'importe qui. Puis c'est lui qui a scénarisé aussi la BD Mad Love qui met vraiment Harley Quinn sur la map là, dans l'univers de Batman. Il travaille sur les Teeny Toons avec Alec Warner, puis il travaille sur un paquet d'affaires. Ce bonhomme-là, à un moment donné, sort, et ça, c'est, je vous dévoile pas de punch parce que c'est d'entrée de jeu, c'est ce qui se passe dans cette histoire-là. Il sort de chez lui, il s'en va quelque part, il rentre chez lui et il se fait péter la gueule. Mais il se fait péter la gueule d'aplomb par des malfrats qui veulent avoir son porte-monnaie, qui veulent avoir son argent. Il est hospitalisé, et puis là, il se met, bien sûr, à réfléchir sur son univers. Mais cette BD-là, c'est ça. Donc, commence à partir de ce moment-là des dialogues entre Paul Dini, Batman, Harley Quinn, le Joker, tous les personnages qu'il a créés pour Batman, toutes les raisons pour lesquelles il est là, sa réflexion sur le bien et le mal, parce que là, il vient de manger un coup, comme son, disons à ce moment-là, alter ego Bruce Wayne, qui le père de Bruce Wayne qui a été attaqué. Il commence à réfléchir à tout ça en racontant comment il s'est... quelle est sa place dans la bande dessinée et dans le dessin animé. Et ça devient vraiment une histoire extrêmement intéressante. Parce que là, au contraire des autres où on a un monde, entre guillemets, de fiction dans lequel on introduit un personnage réel, c'est-à-dire qu'il y a un monde réel et le dessinateur va se mettre en scène ou va entrer dans l'histoire un peu comme la femme papillon. Mais là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est des personnages de fiction qui commencent à pénétrer dans la vie du personnage réel parce qu'il commence à l'obséder, il commence à le hanter. Lui, c'est une personne qui a été à peu près, qui a été pas mal traumatisée par la volée qu'il a mangée, là. Tu sais, il la vit pas partout comme un super-héros, lui-là, là. Puis c'est toute la hantise des personnages à qui il a écrit des dialogues dans le passé qui commencent à lui ramener des dialogues qu'il a écrits. C'est pas mal cool.
Ça fait un rapport au récit qui est assez différent, parce que comme tu dis, c'est pas fréquent, surtout dans un contexte populaire, là, comme avec le super-héros, parce que je veux dire, tu me racontes ça, puis tu m'aurais dit c'est un Marc-Antoine Mathieu, je serais dit, ah, OK, oui, mais avec l'univers de Batman, avec un type qui a écrit, on est dans un autre registre pour ce type d'univers-là. Là.
Et puis c'est très Batman, là. On reste dans un univers qui est très Batman. Le dessinateur est Eduardo Risso qui est là-dessus, que je trouve qui est un très bon dessinateur aussi. Mais l'univers est Batman. La facture visuelle de la BD est Batman. Tout est Batman, là. Sauf que le personnage principal, c'est celui qui travaille sur Batman puis qui mange une volée. C'est assez cool. Ben, pas la volée, la BD.
Effectivement.
Rapidement, ben, ça m'a juste amené à Raymond à je me suis dit, ah, fiction, BD, un peu documentaire. Fait que là, j'ai fait un petit passage avec Mathieu Sapin. Là, je me suis mis à lire son Gérard, quand il a passé un bout de temps dans les
pattes. Pratiquement un an avec Gérard Depardieu.
Avec Gérard Depardieu.
J'ai ça avait donné ça. Un film aussi, il me semble, ça.
Ben, j'ai pas vu le film.
Documentaire. OK.
Mais c'est une excellente BD. Mais là, c'est du documentaire en BD. On n'est plus dans l'univers fiction-réalité. Mais Mathieu Sapin se raconte, si on veut, dans cette histoire-là avec Gérard Depardieu. Puis je pense que c'est un peu une formule gagnante d'aller parler de Gérard Depardieu, de faire une BD sur Gérard Depardieu.
Surtout un gars comme Mathieu Sapin, je veux dire, il s'est spécialisé, je me rappelle, le journal d'un journal, campagne présidentielle sur François Hollande. Je veux dire, c'est un auteur qui s'est versé beaucoup dans cette BD documentaire-là, mais une BD relationnelle, en fait, un documentaire relationnel à la limite aussi.
Complètement. Puis il avait fait un peu la même chose aussi avec Feuille de Chou, qui était le journal du tournage du film sur Gainsbourg. Et tout ça, ben, il va en sortir une autre bande dessinée là, bientôt, et je me souviens plus, Comédie française, qui va être encore relationnelle, qui va faire probablement suite à la campagne présidentielle. C'est très français, campagne présidentielle, là, ça, on peut pas plus français, mais ça reste agréable à lire, et les personnages qu'il réussit à dépeindre sont extrêmement fascinants parce qu'il réussit à faire sortir du monde réel les personnages et d'en faire des personnages de fiction. Donc, Gérard Depardieu, c'est facile, c'est un monstre de fiction. Mais quand on tombe dans la campagne présidentielle, ben là, ça devient intéressant de voir Hollande en personnage de BD, puis il devient vraiment un personnage de BD. C'est pas ronflant et plat. C'est vraiment bon.
Oui, bien en fait, dans le contexte effectivement où les documentaires comme ça sont dictés un peu par leur sujet, puis dans le cas de Depardieu, j'imagine que ce qui fait l'intérêt, tu l'as dit, c'est Depardieu, en soi, c'est déjà un personnage de BD, là, je veux dire.
Mais Depardieu, s'il est comme il est là-dedans, il est extraordinaire. Là. Ben, c'était mon mois en BD, Raymond.
Un octobre bien rempli, en route vers novembre, qui le sera sûrement aussi, avec en plus la température qui va prendre le bord, là, ça va être assez terrible.
Mais là, j'avoue, j'ai une petite crise comic book ces temps-ci. Là, j'ai l'impression qu'on va Paul Dini me donner le goût d'aller dans des Batman. Là. On verra.
On verra ce qui ressortira en novembre prochain. Donc, d'ici là, Stéphane Gravel, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Et voilà qui conclut cette édition de La vie en BD. La semaine prochaine, Club de lecture sur le thème de la rédemption. Surveillez lavieenbd.com pour l'annonce des titres. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine.